Bonjour mes amis, merci de vous joindre à moi. Je viens de prêcher un tout nouveau message à l'église. Je ne l'avais jamais prêché auparavant. Je l'ai intitulé « 5 centurions ». Nous allons regarder la vie de 5 centurions différents dans le Nouveau Testament. Et les amis, certaines des leçons tirées de leurs histoires sont stupéfiantes. Ne manquez donc pas une seule chose de ce que nous dirons sur chacun des 5 centurions. Je parie que vous ne pouvez pas dire qui ils sont en ce moment. Même si vous êtes un expert de la Bible, vous allez adorer ce message. Bonjour, je suis Bill Esconley. Dieu vous voit, il vous aime, et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses. Veuillez ouvrir votre Bible, s'il vous plaît, au chapitre 7 de Luc. Je vais vous donner un message que j'ai intitulé « 5 centurions ». Un centurion était un officier de l'armée romaine qui dirigeait 100 hommes. La racine, 100, une centaine. Centurion est assez logique, un peu comme un capitaine qui dirigeait une centaine d'hommes. Et c'est intéressant, si vous lisez les évangiles et les épîtres, il y a de nombreux centurions mentionnés. Et presque toujours, ils sont impliqués dans une histoire stupéfiante. Et donc, nous allons voir, si le temps le permet, 5 centurions et les histoires dans lesquelles ils sont impliqués dans leur vie. Nous verrons aussi les leçons importantes que nous pouvons apprendre de ces 5 centurions et de leurs histoires. Et le premier, eh bien, c'est celui dont on entend parler plus que tous les autres. C'est le centurion avec une grande foi. Luc chapitre 7, verset 1. Après avoir prononcé toutes ces paroles devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un officier romain avait un esclave auquel il était très attaché qui était malade sur le point de mourir. Il entendit parler de Jésus et il lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir guérir son esclave. Ils arrivèrent vers Jésus et le supplièrent avec insistance, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a fait construire notre synagogue. » Jésus partit avec eux. Il n'était plus très loin de la maison. Quand l'officier envoya des amis vers lui pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je n'ai pas jugé bon d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi je suis un homme soumis à ses supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un « Pars » et il dit à un autre « Viens » et il vient. Et à mon esclave « Fais ceci » et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira l'officier et se tournant vers la foule qui le suivait. « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les personnes envoyées par l'officier trouvèrent l'esclave qui avait été malade en bonne santé. Très bien, Jésus a dit que le centurion avait une grande foi. Une foi encore plus grande que celle qu'il a trouvée chez ses frères juifs. Je voudrais vous faire part rapidement de 4 qualités qui ont rendu la foi de cet homme grande. La première, sa foi était désintéressée. L'objectif de sa foi était le bénéfice d'une autre personne, et non le sien. Deuxièmement, sa foi était grande parce que sa foi était active. Dans notre texte, nous lisons que lorsqu'il a entendu parler de Jésus, il a agi. Il a envoyé les anciens des Juifs vers lui. Il ne s'est pas contenté de s'asseoir et de dire « Si c'est la volonté de Dieu, je sais qu'il va me trouver. » Si c'est quelque chose que Dieu veut, non, il a entendu et il a agi. La foi s'exprime par les œuvres. En fait, le livre de Jacques dit en d'autres termes que la foi sans les œuvres est morte. Elle est impuissante, elle est inerte, elle ne peut rien faire. La foi du centurion était active. Une foi qui n'agit pas n'est pas du tout une foi. Troisième chose, sa foi ne dépendait pas de bonnes œuvres ou de mérites personnels. Les anciens des Juifs, quand ils sont venus, ont dit « Cet homme mérite cela, tu dois faire cela pour lui. Il aime notre nation et il nous a construit une synagogue. Son amour pour notre nation l'a rendu impopulaire parmi certains de ses propres gens. Et il a joint le geste à la parole. Il a en fait construit une synagogue. Jésus, il le mérite. Mais le gars lui-même a dit deux fois « Je ne suis pas digne ». Il ne s'est pas approché de Jésus. Il n'a pas fait de demande à Jésus en se basant sur ses bonnes œuvres ou son mérite personnel. Ce n'était pas du tout dans son équation. Bien que les Juifs et dit qu'il devait le faire, que le centurion le méritait à cause des bonnes choses qu'il avait faites. Mais il a dit, « Écoutez, je ne suis pas digne. Je ne fais pas cela à cause de ce que j'ai fait, de tout ce que j'ai sacrifié. Écoute, Jésus, je ne compte que sur ta bonté. » La Bible dit « Par la foi, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. » Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. « La plupart d'entre vous le savent, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Par la grâce, par le moyen de la foi, et non par les œuvres. » J'ai lu un article il y a plusieurs années qui parlait d'une grande compagnie boulangère. Elle avait sorti un nouveau mélange de gâteaux. Ces personnes pensaient qu'il ferait de grosses ventes, mais personne ne voulait acheter le produit. Petit article intéressant. La seule chose que vous deviez ajouter était de l'eau. Ils se disaient que c'était très pratique et que tout le monde allait l'adorer, d'autant plus qu'ils étaient une grande firme bien établie dans l'industrie. Ils pouvaient donc se le permettre. Ils ont payé pour qu'on étudie les raisons du manque d'intérêt des gens. Et l'étude a découvert que les gens n'ont pas confiance aux choses où ils ne sont pas impliqués. Ils ont donc changé la recette de telle sorte que ceux qui achetaient devaient ajouter un œuf. Et les ventes ont été très rapides. Les gens ont dit, on a confiance parce qu'on contribue à la réalisation. Parfois, nous venons à Dieu avec cette même approche du genre, j'ai un sujet de prière et je suis en confiance que je serai exaucé car j'ai beaucoup lu la Bible cette semaine. Ou « j'ai vraiment confiance parce que je n'ai pas maltraité le chien ni mal parlé à ma femme cette semaine. » Ou « j'ai fait des sacrifices pour l'offrande. » Ainsi de suite. Oubliez tout cela. Ces choses sont bonnes. Je suis toujours assidu à l'église. C'est merveilleux, mais cela ne vous garantit pas l'exaucement à vos prières. J'ai passé plus de temps à prier. C'est bien, mais cela ne vous garantit pas l'exaucement de vos prières. Dieu n'agit pas par rapport à nos bonnes œuvres ou nos mérites. C'est par la grâce, par le moyen de la foi. Un point, c'est tout. Très bien. La quatrième chose. La parole de Jésus était la seule preuve dont sa foi avait besoin. J'adore cela. Il a dit à Jésus, « Dis une parole. C'est tout ce dont j'ai besoin. Juste ta parole. Je n'ai jamais besoin d'aucune autre preuve. » Janet et moi étions en Australie il y a des années, et c'était avant l'existence des téléphones portables, iPad, il n'y avait rien de tout cela. Et comme d'habitude, j'avais les passeports. J'avais donc son passeport et mon passeport. Et elle devait partir 3 jours plus tôt que moi. Je ne me souviens pas pourquoi. Mais j'avais les passeports, j'avais sa carte d'embarquement. Il n'y avait pas de carte d'embarquement électronique. C'était un billet en papier. Elle monte donc dans le taxi ou la voiture qui devait l'y emmener. Et j'ai dit, « Chérie, tu as ta Bible ?» Elle a répondu, « Oui, elle est dans mon sac. » J'ai dit, « Ok, j'ai mis ton passeport et ta carte d'embarquement. » Dans la Bible, c'est dans ton sac. Elle a dit, d'accord, elle m'a donné un baiser et elle est partie. Je l'ai regardée, elle n'a pas vérifié. Le trajet jusqu'à l'aéroport durait 45 minutes. Donc, si je ne l'avais pas mis là-dedans, elle allait rater son vol. Et elle allait devoir refaire tout ce chemin. Et je lui ai demandé quelques jours plus tard, « Hé, quand as-tu vérifié dans ta Bible ?» Elle a dit, « Eh bien, pas avant que je sois devant le comptoir, car je devais ouvrir mon sac quand la dame a demandé mon passeport. » Elle a dit qu'elle n'y avait même pas pensé. Apparemment, ma femme a une grande foi en ma parole. Dis juste la parole. Cela peut sembler simpliste, mais c'est ça, avoir une grande foi en Dieu. C'est-à-dire qu'on le prend à sa parole tout en agissant en conséquence. La parole comme seule preuve. Janet n'a pas vérifié pour être certaine. Elle a juste accepté ma parole. Très bien, passons de ce centurion, avec une grande foi, à celui que j'appellerai le centurion naufragé. L'histoire se trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 27. Et Paul est en état d'arrestation. Il a été placé sous la garde d'un centurion romain et de quelques soldats parce qu'il a fait appel à César. Donc, il est en route pour Rome. Ils sont sur un bateau et ils rencontrent une tempête épouvantable. Pendant 2 semaines, ils ne voient ni le soleil, ni la lune, ni les étoiles. Tout espoir qu'ils puissent être sauvés a été abandonné. Ils sont littéralement perdus en pleine mer, au milieu de nulle part. Et puis, soudain, Paul prend les choses en main et il dit, Voici un ange s'est révélé à moi ce soir. Et Dieu m'a montré qu'il m'accorde ma vie et celle de tous ceux qui naviguent avec moi. Mais nous devons nous échouer sur une certaine île. Et à partir de ce moment-là, le centurion a obéi à Paul. Il a pris tout ce qu'il disait comme parole d'évangile, si vous voulez. C'est une histoire vraiment intéressante. Le centurion a fait tout ce que Paul lui a dit. Pourquoi? Eh bien, avant cela, il n'avait pas écouté Paul. Il a donc reconnu son erreur, tout en réalisant que Paul écoutait bel et bien la voix de Dieu et qu'il ne serait pas dans cette tempête s'il l'avait écouté avant. Et la leçon que je veux tirer de cette histoire est la suivante. Nous devons être sensibles et écouter le Saint-Esprit. Allons, deux semaines en arrière, dans le scénario que je viens de vous relater, Actes chapitre 27, verset 9, il est écrit « Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. » C'est pourquoi Paul a donné cet avertissement. « Mes amis, je vois. » Tout le monde dit « Je vois. » Mes amis, je vois que la navigation ne se fera pas sans dommages et qu'il y aura beaucoup de pertes, non seulement pour la cargaison et pour le bateau, mais encore pour nous-mêmes. Mais l'officier se fiait plus au capitaine et au patron du bateau qu'aux paroles de Paul. Comme le port n'était pas approprié pour hiverner, la plupart ont été d'avis de le quitter pour essayer d'atteindre Phénix, un port de Crète orienté vers le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud s'est mis à souffler, et se croyant maître de leur projet, ils ont levé l'ancre et ont longé de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent violent qu'on appelle Eurachion s'est déchaîné. Le bateau a été entraîné sans pouvoir résister au vent, et nous nous sommes laissés emporter à la dérive. Et à partir de ce moment-là, ils ont été dans la terrible tempête pendant des semaines. Voici, d'un côté, Paul a dit « Je vois ». Il a eu une perception intérieure. Cela venait de l'Esprit-Saint. Il n'y avait rien à l'extérieur pour justifier cela. Nous avons donc la perception de Paul contre les experts, la majorité et les circonstances. Le centurion était plus persuadé par ce que le timonier disait, c'est-à-dire le capitaine. Il connaît les eaux de cette région. Il connaît les vents. Il connaît les saisons. Certainement, il a raison, c'est lui l'expert. Et puis, il est dit qu'il était aussi persuadé par ce que le propriétaire du navire avait à dire. Le propriétaire, c'était ce qu'il faisait pour vivre. Il n'était donc pas prêt à encourir la perte de son navire et la perte de sa cargaison. Cet homme était un expert. Donc, nous avons les experts qui disent « Nous devons y aller ». Et puis, il est dit « La majorité a conseillé ». Et nous savons que la majorité a toujours raison. Si tout le monde le dit, cela doit être juste, n'est-ce pas? Si les médias le disent, ça doit être vrai, n'est-ce pas? C'est là le problème. Chaque croyant a la capacité d'être conduit par le Saint-Esprit de cette manière. Cette sensibilité intérieure à la direction du Saint-Esprit peut et doit être développée. Sinon, nous nous retrouverons au milieu de nombreuses tempêtes que nous aurions pu éviter. Certains ici aujourd'hui, et ce n'est pas une parole de Dieu, mais simplement en vertu du nombre de personnes présentes, il y a des gens, ici, en ce moment, qui se trouvent dans une grande tempête qui aurait pu être évitée. Nous devons apprendre à écouter cette perception intérieure. La Bible dit que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit, mais parfois dans nos vies et dans notre monde bruyant. Il y a tellement de bruit tout le temps. Nous sommes toujours sur nos appareils à regarder ceci, à faire défiler cela, et nous ne prenons pas le temps de nous calmer pour écouter la voix du Saint-Esprit et cerner ses directives. Je vous le dis, Dieu veut parler à chacun de ses enfants de cette façon. Ce n'est pas hors du commun, c'est la voie normale par laquelle Dieu guide ses enfants. Très bien. Passons au troisième centurion, et je l'appelle le centurion qui arrête. Dans Acte 22, nous trouvons une histoire. Paul est saisi par une foule en colère dans le temple de Jérusalem. Ils le traînent dehors et le battent jusqu'au sang, avec l'intention de le tuer. Pendant ce temps, le commandant de la garnison romaine est mis au courant de la situation, et il se précipite avec des soldats. Et ils emmènent Paul loin de la foule. Il fait enchaîner Paul et ordonne qu'il soit torturé et flagellé au moyen d'un fouet garni de morceaux d'os et de métal pour lui arracher la chair. La plupart des gens ne survivaient jamais à une flagellation romaine, mais il ordonna qu'on le flagelle pour trouver la vérité. Il voulait donc le flageller afin de savoir les raisons du tumulte dans la foule et ce que Paul avait fait. Et c'est à partir de là que commence notre histoire. Actes chapitre 22, verset 25. Alors qu'il l'attachait avec des courroies, Paul dit à l'officier qui était présent, « Avez-vous le droit de fouetter un citoyen romain qui n'est pas même condamné ?» À ces mots, l'officier alla avertir le commandant en disant, « Attention à ce que tu vas faire, car cet homme est romain. » S'approchant de Paul, le commandant lui demanda, « Dis-moi, es-tu romain ?»« Oui, » répondit-il. Le commandant reprit, « C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. Quant à moi, dit Paul, je l'ai de naissance. » Aussitôt, ceux qui devaient procéder à l'interrogatoire, c'est-à-dire ceux qui allaient le torturer, se retirèrent. Et le commandant eut peur en prenant conscience que Paul était romain et qu'il l'avait fait enchaîner. Selon la loi romaine, on ne pouvait pas lier un romain. On ne pouvait pas emprisonner un romain sans un procès en bonne et due forme. Donc, cet homme a réalisé qu'il pouvait avoir des problèmes pour avoir traité un romain ainsi. Voici mon point. Paul n'a pas hésité d'exercer ses droits en tant que citoyen romain. Et cela n'allait pas à l'encontre de sa foi chrétienne. Il n'a pas hésité d'exercer ses droits de citoyen. Et cela n'allait pas à l'encontre de sa foi chrétienne. Et ceci n'est pas un cas isolé, car il a fait la même chose dans Actes, chapitre 16. Vous pouvez le lire. Le sujet y est amplement abordé. Il était sans crainte face aux dirigeants d'une ville parce qu'il était un citoyen romain et il avait violé la loi. Plus tard, dans Romains chapitre 25, il a fait appel à la plus haute cour du pays et on lui a accordé ses droits en tant que citoyen. Par contre, certains ont une interprétation extrême et non biblique des paroles de Jésus sur le fait de tendre l'autre joue. Jésus parlait de l'insulte. En fait, il est intéressant de noter que si vous regardez dans Jean chapitre 16, où Jésus, lors de son jugement, fut frappé par un officier à cause de ses propos au souverain sacrificateur, Jésus a-t-il tendu l'autre joue? Non, il ne l'a pas fait. Il a plutôt réprimandé l'homme. C'est dans votre Bible. Le livre de Jean, chapitre 18. Écoutez, c'est une chose d'être insulté ou contrarié. C'est une toute autre histoire si vous ou votre famille êtes menacé de dommages corporels ou si votre propriété est injustement et illégalement saisie ou si le gouvernement interdit de prêcher l'Évangile. C'est une situation totalement différente. Notre propriété avait été saisie illégalement et injustement. Nous avions travaillé pendant 2 ans pour conclure l'affaire avec plusieurs propriétaires. Nous avons consolidé l'achat, travaillé pendant une autre année sur les plans. 3 jours après avoir remis les plans de construction et vérifié que le zonage autorisait une église, le bureau de réaménagement de la ville nous a expulsés de notre propriété et ils ont complètement déformé la loi qui dit qu'en cas de construction d'une autoroute ou d'un réservoir, vous êtes obligé de vendre votre propriété à un prix raisonnable. Mais ils l'ont utilisé parce qu'une grande surface voulait notre propriété après tout le travail que nous avions fait. Et ils allaient en tirer un certain bénéfice. Ils ont donc confisqué notre propriété et nous avons protesté. Nous avons pris des avocats. Nous avons dit, vous ne pouvez pas faire cela. Et je me souviens que nous avons eu une réunion avec les représentants de cette grande surface. Et le monsieur a dit, écoutez, vous n'agissez pas comme des chrétiens. Les chrétiens ne sont pas censés protester ou faire entendre leur voix. Vous n'êtes pas censés résister. Vous devez être un bon citoyen. Vous devez simplement faire le mort, être passif et faire ce que les autorités vous disent de faire. Vous devez être obéissant aux autorités dirigeantes. Vous n'agissez pas comme des chrétiens. Nous n'étions pas du tout d'accord. Cela a fini devant un tribunal fédéral où nous avons gagné le procès haut la main. Oui, je sais que je contredis les convictions de certaines personnes. C'est dommage. Si cela vous contrarie, il faut reconsidérer votre position, car ce que j'ai dit est vrai. Nous devons être conduits par le Saint-Esprit lorsque nous traitons avec les autorités au pouvoir. Agir ainsi sous la conduite du Saint-Esprit, il n'est pas contraire à notre foi chrétienne d'utiliser les droits que nous avons en tant que citoyens et de défendre ces droits. L'apôtre Paul l'a fait maintes fois. Et donc, à moins que l'Esprit ne vous conduise à faire autre chose, ce n'est pas contraire à la foi chrétienne. Il peut être avantageux pour vous d'exercer vos droits en tant que citoyen. Très bien. Permettez-moi de passer au quatrième centurion. C'est le centurion à la croix. Je veux simplement lire un verset. Matthieu chapitre 27, verset 54. Il est dit, « À la vue du tremblement de terre et de ce qui venait d'arriver, l'officier romain et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande frayeur et dirent, « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Ils observaient Jésus, ce qui veut dire qu'ils le gardaient, le retenaient, le surveillaient. Cela signifie aussi qu'ils avaient les regards sur Jésus. Ils le regardaient. Ils ont vu le tremblement de terre. Le ciel s'est assombri. Il est dit qu'ils ont regardé et ils ont vu les choses qui ont été faites. Ils l'ont vu souffrir et mourir. Ils ont observé les événements surnaturels, mais ils ont également observé plus que cela. Le centurion a observé comment Jésus traitait ses ennemis. Il était mourant à la croix, et le centurion a entendu Jésus dire de ceux qu'il avait crucifiés et brutalisés, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il a vu Jésus rassurer l'un des voleurs sur la croix, qui a d'abord lancé des accusations et des insultes à Jésus, et s'est ensuite repenti et a dit, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus a dit, « Aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi au paradis. » Il a vu Jésus interagir avec ses ennemis. Il l'a vu pardonner ceux qui lui avaient fait du mal. Il a observé comment Jésus traitait sa famille. Alors qu'il était suspendu à la croix, Jean était là avec sa mère. Il a dit, « Mère, voici ton fils. Fils, voici ta mère. » Après cela, Marie, la mère de Jésus, alla vivre dans la maison de Jean. Le centurion a dû se dire, « Cet homme est en train de mourir. Il est en train de subir une mort cruelle et il pense à sa famille. » Il ne pense pas à lui-même. Il a observé et vu l'impact que Jésus avait sur les autres, sur des gens qu'il connaissait, comme le gouverneur romain, Ponce Pilate. Il savait que Pilate était un homme cruel qui avait déjà crucifié des centaines de personnes, sans conscience et sans remords. Et il a vu Pilate défier les Juifs par rapport à Jésus, en appelant Jésus un homme juste et en essayant de le faire libérer, allant même jusqu'à se laver publiquement les mains aux yeux de tous. Il a dit, « Je n'ai rien à voir avec le sang de cet homme saint. » Pilate était perturbé et ébranlé, et le centurion n'avait jamais vu une telle chose auparavant. Ayant donc vu et considéré toutes ces choses, le centurion arriva à la conclusion que Jésus était le Fils de Dieu. Les gens nous observent et se font des idées sur nous tout le temps. Le saviez-vous? La Bible dit que nous sommes des lettres vivantes, lues et connues de tous les hommes. Les gens regardent comment nous traitons nos ennemis, ceux qui nous calomnient, ceux qui parlent contre nous. Les gens regardent et évaluent comment nous vivons notre foi chrétienne. Les gens regardent comment nous traitons nos familles, comment nous traitons nos enfants, nos conjoints, nos amis. Ils observent les faits que nous avons sur les autres. Ils observent tout le temps. Et nous voulons qu'ils arrivent à la conclusion que Jésus est le Fils de Dieu. Toutes ces choses ne se produiraient pas si ce n'était pas réel. Le cinquième centurion s'appelait Corneille. Nous le trouvons dans Actes au chapitre 10. Et cet homme avait un respect et un amour sincère pour Dieu. Il priait sans cesse et faisait l'aumône. Il prenait soin des pauvres. Et un ange lui dit dans une vision, « On va chercher Simon, surnommé Pierre. » Et il dit à Corneille où se trouvait Pierre. Et il dit, « Pierre te dira des paroles par lesquelles toi et ta famille serez sauvés. » Pendant ce temps, Pierre a une vision de Dieu. Et l'Esprit dit à Pierre, « Il y a des hommes à la porte. Va avec eux sans hésiter. C'est moi qui les ai envoyés. » Il s'agissait d'une délégation de la maison de Corneille. Pierre va donc avec eux, se présente à la maison de Corneille. Et ils sont prêts à entendre les paroles de Pierre. Et Pierre leur parle de Christ. Corneille, toute sa famille, tous ses amis sont sauvés. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils parlent en langue. Nous devons noter que Corneille aimait et respectait Dieu, mais il n'était pas sauvé. Corneille a prié, mais il n'a pas été sauvé. Corneille a fait l'aumône, mais il n'a pas été sauvé. Il devait entendre des paroles pour être sauvé. Mes amis, c'est par la prédication de l'Évangile que les gens sont sauvés.